11h exacte cette fois-ci sur Radio Campus Tour, c'est la Méridienne. Bonjour, bienvenue dans cette émission. Et alors aujourd'hui, une nouvelle émission en partenariat avec l'INSERM Grand Ouest. Donc j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Antonine Nikoglou. Bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes maîtresse de conférences en philosophie, vous êtes rattachée à la faculté de médecine de l'Université de Tours et vous êtes également membre du laboratoire de recherche INSERM iBrain. Et vous êtes aussi chercheuse au sein de l'équipe psychiatrie expérimentale et translationnelle. Vous y avez développé un projet de recherche sur les origines et usages de l'expérimentation animale dans la biopsychiatrie. Et depuis 2023 quand même, c'est important, vous êtes aussi à l'Institut universitaire de France. Merci à vous d'être dans cette émission pendant une heure.
Merci pour votre invitation.
Avec grand plaisir. Et alors, on va peut-être commencer par se pencher sur le fait que vous êtes maîtresse de conférences à la faculté de médecine. Alors, vous enseignez, je crois, entre autres, la philosophie. Alors, ça peut-être encore surprendre nos auditeurs. Quelle est la place des SHS, donc des sciences humaines et sociales, en médecine?
Alors, effectivement, il y a pas beaucoup de facultés de médecine en France qui ont des professeurs de philosophie qui leur soient affiliés. Je suis ravie que ce soit le cas à Tours, ce qui m'a permis d'avoir ce poste et puis surtout d'enseigner aux étudiants en santé, ce qui est assez original. Il y a quelques facultés en France qui ont des enseignements de sciences humaines. C'est maintenant devenu plus ou moins une obligation, mais c'est vrai que parfois, c'est encore des médecins qui le font. Et de plus en plus, voilà, les enseignants spécialisés en sciences humaines essaient de s'imposer au sein des facultés de médecine.
Alors, quel a été votre parcours, justement, pour arriver à enseigner les sciences humaines et sociales en faculté de médecine, donc aux étudiants en santé?
Alors, moi, j'ai eu un parcours... je dirais finalement assez classique en philosophie, mais c'est vrai que je me suis intéressée dès le début aux sciences biologiques et médicales, principalement aux sciences biologiques, et donc j'ai fait aussi des études de bio. Et bah, c'est vrai que c'était quelque chose qui était un peu difficile au début de mes études parce que je n'arrivais pas à choisir entre les sciences humaines et les sciences biologiques, même si finalement les sciences biologiques, quand elles sont rattachées à la médecine, deviennent des sciences humaines aussi. Mais j'ai eu la chance d'avoir des enseignants qui m'ont encouragé à poursuivre finalement cette double formation, à la fois... en philosophie, donc, puisque je me suis spécialisée en philosophie, et puis en biologie. Et puis finalement, j'ai découvert au cours de ces études de philosophie la philosophie des sciences, et puis j'ai découvert aussi que dans la philosophie des sciences, il y avait une spécialisation en philosophie des sciences biologiques et médicales. Et donc ça m'a permis finalement d'allier mes deux intérêts, mes deux passions, qui étaient la philosophie et la biologie. Et j'ai fait tout un parcours, puisque j'ai fait une thèse en philosophie des sciences. Et cette thèse m'a conduit ensuite, évidemment, à faire des enseignements à la fois dans des facultés de philo, et puis enfin dans des départements de philo, des facultés de lettres, et puis aussi assez rapidement dans des facultés de sciences, et enseigner auprès d'étudiants en sciences. J'ai toujours, en fait, côtoyé les deux communautés. Donc, même si, évidemment, ma discipline d'appartenance est devenue la philosophie, j'ai toujours été avec des scientifiques et maintenant aussi des médecins.
Et d'ailleurs, ce rapport au savoir, alors peut-être qu'il est plus commun aujourd'hui, mais il y a quand même une époque où on séparait bien, je pense aux anciens bacs, où il y avait les scientifiques, les littéraires, disons tout ce qui était vaguement économie et autres. Donc en fait, cette idée de partition du savoir, ça veut dire que vous, d'emblée, vous ne la considériez pas comme pertinente?
En tout cas, je me retrouvais pas, ou plutôt, j'arrivais pas à choisir. Je pense que ça doit être le cas de beaucoup de gens, enfin, en tout cas, plus qu'on ne le pense. Je pense aussi qu'il y a peut-être plus d'opportunités pour pouvoir faire des parcours en parallèle, mais c'était déjà le cas à mon époque, au sens où c'était possible voilà, de trouver des moyens finalement de détourner ce cloisonnement disciplinaire. Je pense qu'encore aujourd'hui, la meilleure manière dont ça se fait, c'est aussi quand on arrive à détourner les cloisonnements disciplinaires et qu'on va à la rencontre d'autres disciplines. Je ne sais pas si ça peut se faire très bien toujours quand c'est forcé, même s'il y a des parcours interdisciplinaires qui se sont développés et qui sont très intéressants aussi. Hein. J'ai parfois collaboré avec des gens qui étaient issus de ces parcours, et c'est vrai que c'est plutôt intéressant, en tout cas comme rapport voilà, à l'articulation entre ce qu'on appelle science dure et puis les soi-disant sciences plus molles.
Mais quand même, cette idée de détournement de cloison, c'est, voilà, c'est de dire que finalement, il y a un savoir. Le savoir, il est partout. Enfin, il n'y a pas un savoir, comment dire, qui ne sont pas forcément éclatés, mais qui sont tous reliés. Toutes les disciplines,
oui,
sont reliées.
Alors, c'est vrai que souvent, il y a encore une hiérarchie qui est faite entre les sciences. Et puis, souvent, on a du mal à revendiquer que quand on fait des sciences humaines, c'est des sciences aussi, que c'est un savoir, qu'on peut faire de la recherche de la même manière que dans les autres sciences, que même si on n'est pas forcément dans des labos, alors moi j'ai la chance d'être dans un labo qu'on appelle labo, mais quand j'ai fait ma thèse, par exemple, j'étais aussi dans un labo qu'on appelait labo, mais qui était plus facilement appelé institut, parce qu'on ne faisait pas de l'expérimentation, parce qu'on n'avait pas des pipettes, parce qu'on n'avait pas des paillasses. Du coup, on a tendance à se dire, on fait pas de la science, mais en fait, si, on réfléchit à l'élaboration des connaissances, on essaie soi-même d'éclairer, d'apporter des connaissances nouvelles, donc on fait de la science.
Et alors justement, puisque vous dites que vous êtes la seule philosophe dans un laboratoire de neurosciences translationnelles, donc comment vous arrivez à travailler, disons, en bonne intelligence avec vos collègues, entre guillemets, cervologues? Parce que vous avez expliqué votre double cursus, mais comment vous faites pour travailler tous ensemble?
Alors oui, c'est vrai que j'ai parlé de ma formation, mais j'ai été recrutée à Tours, à la faculté de médecine. J'ai aussi été recrutée dans ce laboratoire, INSERM, dans lequel il y a principalement des neuroscientifiques, quelques linguistes, et puis évidemment des médecins aussi qui travaillent. Et bon, alors évidemment, c'est parce que par le passé, j'avais déjà travaillé avec des scientifiques qui n'étaient pas en neurosciences, qui étaient plutôt en biologie du développement. C'est là qu'on se rend compte qu'il y a aussi plusieurs communautés scientifiques, que ce n'est pas forcément les mêmes profils, et que l'interdisciplinarité, c'est-à-dire la discussion qu'on peut avoir, qu'on peut développer, va aussi dépendre des affinités entre les disciplines. Et je dirais que, dans le laboratoire dans lequel je me trouve maintenant, les choses ont été beaucoup plus simples, beaucoup plus faciles que ce qu'elles ont pu être parfois par le passé, où j'avais plus souvent besoin de justifier quel était mon travail, d'expliquer ma discipline. Alors je ne sais pas si c'est parce que les neurosciences invitent aussi à s'interroger, à douter peut-être plus que dans d'autres disciplines biologiques existantes. Je pense en particulier à l'embryologie, qui sont des disciplines biologiques plus anciennes, ou voilà, la biologie du développement, où il y a peut-être moins de questionnements théoriques. En tout cas, dans mon laboratoire actuel, ce qui est assez agréable, c'est que les réflexions que je peux mener, les interrogations que je peux soulever, intéressent et interrogent aussi mes collègues scientifiques. Et donc, ça permet d'avoir vraiment des échanges intéressants. Ça permet, moi, d'approfondir mes réflexions, de voir certaines choses comme je ne les avais pas forcément vues à travers les lectures. Donc, c'est vrai que pouvoir discuter avec les scientifiques et pas simplement travailler sur un support qui serait les articles, les ouvrages, donc une littérature secondaire finalement, mais avoir un rapport plus direct permet aussi d'avoir un échange plus dense, je dirais, sur les thématiques.
Plus dense et peut-être plus immédiat aussi, parce que les publications, on les lit, mais en fait, l'auteur a quand même pris le temps de la réflexion, de la rédaction, ça a été relu. Donc, bah, des fois, il y a quand même un certain temps qui s'écoule entre le moment où on pense écrire un article et où il est à disposition. Donc là, en fait, c'est plus des réflexions dans l'immédiat.
Oui, et puis il y a aussi toute une observation de comment la science se fait, parce que ce qui apparaît dans les articles, c'est pas toujours ce qui se fait au quotidien dans la science. Il y a une forme de bricolage hein, dans n'importe quelle science. Je dis ça pour les sciences biologiques, mais c'est aussi le cas dans les sciences humaines. Hein. Parfois, on bricole avec les informations qu'on peut lire. Ça fait partie aussi de la créativité du chercheur, cette dimension de bricolage, mais qui, dans le processus de publication tel qu'il existe aujourd'hui, a tendance à être lissé, à disparaître. Souvent, d'ailleurs, les chercheurs eux-mêmes s'en plaignent, parce que quand on lit un article, on ne sait pas forcément les détails de la méthodologie. On a parfois des difficultés même à reproduire des expériences qui ont été réalisées. On a vu, de manière plus prégnante ces dernières années, beaucoup d'articles qui ont pu être retirés après coup parce qu'il y avait eu soit des fraudes, soit parfois des erreurs. C'est un processus qui est particulier, la publication, et qui donne une sorte de filtre aussi à la lecture de la science. Donc ça a un intérêt, c'est important de lire les articles, hein. Je ne dis pas par là qu'il ne faut plus les lire, que ce n'est pas comme ça qu'on sait comment se fait la science, ça nous donne une information, mais ce n'est pas la même information que quand on discute directement avec les scientifiques ou qu'on les voit faire leur expérience ou travailler au quotidien.
Est-ce que la médecine est amie du doute ?
Alors, c'est vrai que jusqu'à présent, j'ai parlé essentiellement de mes collègues scientifiques. J'ai un peu moins parlé de mes collègues médecins. Alors, mes collègues médecins, je les côtoie plus dans les rapports pédagogiques, parce que c'est vrai que je travaille avec eux pour la réflexion, l'élaboration d'enseignement. Dans mon projet de recherche, j'ai été amenée quand même à échanger avec des médecins, notamment des psychiatres. La relation n'est pas la même. Alors, pour répondre à votre question, oui, le doute est présent et il se manifeste d'une manière différente du doute chez le chercheur, parce que il y a tout un ensemble de crises qui traversent la société et la médecine en particulier, et que donc les médecins ressentent. C'est vrai que moi, je parle essentiellement à un type de médecins qui sont les médecins enseignants-chercheurs. Donc, c'est pas forcément représentatif de non plus de l'ensemble des médecins de la société. Et donc, y a une très grande variabilité hein, sur cette question du doute. Je dirais que c'est un peu comme partout. Malheureusement, il n'y a pas toujours suffisamment de doute. Ouais.
Alors l'idée, disons, de faire une injonction de culture générale dans les études de médecine, est-ce que c'est aussi pour ménager, disons, de la place à ce doute nécessaire ?
Alors, effectivement, là, vous faites référence peut-être à une ordonnance de l'Académie.
Bien sûr.
Ouais, à une ordonnance de l'Académie de médecine qui est parue en décembre dernier. C'est un document assez intéressant. J'avais été moi-même invitée, notamment lors de la venue de l'Académie de médecine à Tours il y a quelques mois, pour évoquer la place des sciences humaines dans la médecine. Et puis alors, cette ordonnance a mis en avant la question de la culture générale. Alors, il y a quelque chose d'assez étonnant, en fait, dans cette ordonnance, parce qu'il y a à la fois la place importante qu'il faudrait redonner à cette notion de culture générale qui revient régulièrement sur le devant de la scène, bon, avec toujours une interrogation de qu'est-ce que ça signifie que la culture générale, avec quelques doutes qu'on peut soulever autour de cette question. Mais là, ce que je trouve assez encourageant, puisqu'il faut trouver les choses encourageantes quand même dans la vie, c'est qu'elle elle indique que les professionnels de santé quand même prennent de plus en plus conscience de la nécessité de réintroduire des sciences humaines et plus particulièrement peut-être de la philosophie dans la médecine, puisqu'elle met en avant le fait qu'il faudrait mettre dans chaque faculté de médecine un département de philosophie et de pédagogie de la santé. Alors évidemment, c'est pas forcément pour faire plaisir à mes collègues des autres disciplines des sciences humaines, parce qu'il y a aussi la sociologie, il y a aussi l'histoire, la littérature. Voilà, on pourrait se dire pourquoi est-ce que tous ces domaines n'auraient pas aussi leur place dans les facultés de médecine. Mais disons que c'est déjà ça, hein, il faut prendre ce qui est proposé. Et c'est vrai que, voilà, comme moi je suis philosophe, que j'ai beaucoup de jeunes collègues brillants qui cherchent un emploi, je ne peux applaudir que des deux mains cette volonté qui viendrait des professionnels de santé de dire que il faut réintroduire un enseignement à la réflexion, il faut laisser la place aussi au doute dans l'enseignement de la médecine. C'est vrai qu'actuellement, c'est essentiellement des connaissances qui sont presque assénées aux étudiants en santé, qui sont ensuite évaluées sous la forme de QCM. Et on peut se demander si ça suffit pour devenir un bon médecin. Alors, on sait que, de fait, les médecins sont formés par la suite, sur le tard, à la confrontation aussi avec leur père au moment de pratiquer l'exercice de la médecine, hein, dans ce processus de professionnalisation. Mais je pense que, voilà, ce serait bien que tout au long de leurs études, il y ait ce rapport à la réflexion qui soit beaucoup plus systématique.
Et alors, ça se présente comment, ces enseignements en faculté de médecine? Parce que les étudiants en médecine diraient, mais on a déjà des emplois du temps chargés. Du coup, comment? C'est combien d'heures? C'est des heures de quoi? Qu'est-ce qu'on fait comme travaux?
Alors, les emplois du temps chargés, oui, hein, on sait que les études de médecine sont longues. Hein, c'est justement pour permettre de tout apprendre, mais le temps, c'est toujours pareil. On choisit de l'octroyer à certaines priorités ou à d'autres. Actuellement, en attendant que cette ordonnance de l'Académie de médecine rentre dans les faits ou puisse s'appliquer dans l'ensemble des facultés de médecine nationales. En attendant, on fait comme on a toujours fait, c'est-à-dire qu'on bricole. Et en termes de bricolage, à la faculté de Tours, on est plutôt bien loti, je dirais, en tout cas par rapport à d'autres facultés, parce qu'il y a un certain nombre d'enseignements qui sont obligatoires, notamment dans les premières années, qui fait que les étudiants ont une base d'enseignement en sciences humaines en première année, alors même si on sait que souvent ils oublient tout dès la deuxième année, ce qu'ils ont appris en première année, mais on continue, on en remet une couche en deuxième et en troisième année. Et puis ensuite, à partir de la deuxième année, ils ont aussi des enseignements facultatifs qui peuvent suivre. et dans lesquels on les encourage à se former à la recherche en sciences humaines. Et certains étudiants réussissent très bien, sont complètement passionnés parce que si ça leur change de un apprentissage un peu systématique, hein, ça leur élargit leur champ de réflexion et ça leur permet de faire des recherches sur des thématiques qui les intéressent. Donc voilà, ces enseignements optionnels sont très appréciés par les étudiants qui les suivent.
Et alors cette ordonnance de la faculté de médecine postule aussi que la culture générale permet de faire preuve de plus d'empathie. Qu'est-ce que vous en pensez ?
La question de l'empathie, évidemment, ça pourrait être lié à un courant qui a tendance à se développer aujourd'hui dans les sciences humaines et sociales, hein, qui est le rapport des sciences humaines et sociales à la pratique. C'est-à-dire de se dire que ce n'est pas simplement des enseignements théoriques, mais que c'est des enseignements qui s'inscrivent dans une pratique, dans la manière de faire. Donc là, on pourrait se dire que ces enseignements pourraient se faire dans cette articulation de la pratique médicale, réfléchir avec les étudiants au moment où ils sont confrontés à ces questions-là, à leur ressenti, à mettre des mots sur les émotions, à être capable de réfléchir à ces aspects-là. C'est une manière d'envisager les choses. C'est vrai que l'empathie... Il n'y a pas de cours d'empathie. Quoi. C'est pas quelque chose qui s'enseigne. Mais pour autant, je suis pas sûre qu'on puisse dire que on est empathique ou on ne l'est pas. C'est pas une fatalité. C'est-à-dire que c'est quelque chose aussi où on peut apprendre à développer des sensibilités de différentes manières. Et en l'occurrence, je pense que c'est le rôle des sciences humaines. Ouais.
Parce que collé à cette ordonnance, les exemples d'apports culturels qui sont disons, le plus mentionnés dans ce document, c'est l'art pictural et la lecture. Donc en quoi finalement lire des livres et aller voir des expositions ferait de meilleurs médecins ?
Alors, lire des livres et aller voir des expositions, ça fait du bien à tout le monde, dans tous les cas. Le gros problème, c'est aujourd'hui l'accès à cette culture. On sait qu'elle est très inégale, hein, que tout le monde ne peut pas, pour des raisons sociales, mais aussi de plus en plus économiques, accéder à la lecture, voire même, j'ai envie de dire, au cinéma, hein, puisque finalement, c'est peut-être ce qui est le plus a priori facile d'accès. De fait, je pense que c'est un rôle de la formation de permettre. C'est pas quelque chose qu'on doit considérer comme parce que c'est ce qui est à la base finalement des inégalités dans les recrutements en santé. Hein. Une des raisons de la dernière réforme était justement l'observation que les médecins dans leur recrutement ne représentaient pas assez bien la diversité sociale de leurs patients, qu'il fallait aussi être capable de diversifier ses profils. Et le problème, c'est qu'en fait, en considérant, par exemple, que quelqu'un qui aurait eu au cours de son enseignement primaire, secondaire, un accès plus grand à la culture, du coup aurait une plus grande empathie et on le favoriserait dans le recrutement, c'est considéré qu'en fait par la formation on ne peut rien. Alors que moi, j'aurais tendance à penser que rien n'empêche, enfin les études de médecine sont suffisamment longues, on peut très bien s'imaginer qu'on recrute quelqu'un pour devenir médecin au sortir du bac et que la formation qu'il va avoir va lui permettre de développer cette empathie à la fois par le biais d'une incitation à la lecture, et c'est aussi ce que l'enseignement supérieur doit permettre de donner aux étudiants, mais aussi par la formation d'un esprit critique, d'une réflexion, de savoir lire des livres, parce qu'il ne s'agit pas simplement d'y avoir accès, ensuite il faut être capable de les lire, de les analyser, de les comprendre, et donc c'est tout ce travail aussi qui doit être promu par la formation, et je pense pour la formation des médecins, tout particulièrement.
Après, est-ce qu'on pourrait imaginer aussi de leur proposer des choses en lien avec les différentes cultures qui sont en présence en France ? Parce que c'est des cultures qu'ils et elles vont être amenés à rencontrer dans le cadre de leur exercice.
Alors, tout à fait. De toute façon, si on suit l'ordonnance et si on considère, par exemple, qu'un département de philosophie et de pédagogie venait à être mis en place dans chaque faculté de médecine et que ce département, qui plus est, comme il est indiqué dans cette ordonnance, serait dirigé par quelqu'un qui a été formé en sciences humaines, bah, on peut s'imaginer que cette personne aurait les compétences de réfléchir à ces enjeux contemporains très importants dans la société. C'est quelque chose qui, évidemment, fait partie des enjeux actuels des sciences humaines et donc pourrait être amené beaucoup plus facilement, je pense, par quelqu'un qui aurait été formé en sciences humaines que peut-être beaucoup plus spécialisé, en tout cas, dans les sciences biologiques ou médicales.
Alors, les patients comptent sur vous ?
J'en fais partie de ces patients.
Oui. Et alors, est-ce que ce qui intéresse aussi peut-être la faculté de médecine, hein, je les invite à nous contacter s'ils ne sont pas d'accord avec ce que nous disons, c'est que la philosophie, ça peut être rapproché de l'éthique.
Oui, bah, l'éthique, c'est d'une certaine façon parfois considéré comme un courant de la philosophie, hein, même si, évidemment, on dit toujours on n'apprend pas l'éthique. Hein, c'est pas comme la philosophie, on peut apprendre la philosophie, apprendre à faire de la philosophie. L'éthique, c'est toujours dans l'action, donc c'est toujours face à des situations, comment est-ce qu'on réfléchit. Mais par contre, on peut rappeler aux étudiants les grands enjeux éthiques, les grands débats éthiques qui ont pu exister déjà au cours de l'histoire, et puis les amener à réfléchir sur les enjeux éthiques contemporains, à la fois présents dans la société et puis aussi tels qu'ils vont se présenter pour eux, futurs soignants. Oui, c'est des questions évidemment centrales.
Antonine Nicoglou, je vous propose de faire une première pause musicale dans cette émission La Méridienne. Alors, vous nous avez choisi de la musique. Que va-t-on écouter ?
Le premier, donc The Animals ?
Alors, on écoute ça dans La Méridienne sur Radio Campus Tours et on revient tout de suite après.
Baby, do you understand me now? If sometimes I seem to be mad, well, don't you know that no one alive can always be an angel? When things go wrong, I seem to be mad. I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Baby, sometimes I'm so carefree with a joy that's hard to hide. And then again it seems that all I have to do is worry, and then you're bound to see my other side. But I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood.
if I get itchy, I want you to know that I never mean to take it out on you. Life has its problems, and I've got my share. And that's one thing I never need to do, 'cause I love you. Oh, baby, don't you know that I'm human? I have thoughts like any other one. Sometimes I find myself alone regretting some foolish thing, some sinful thing I've done. I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood.
Et oui, tous ces fans qui écoutent La Méridienne sur Radio Campus Tours, on ne se lasse pas. Et merci à mon invité, Anthony Nicoglou, pour cette transition toute trouvée, The Animals, pour parler du sujet suivant de cette émission. Donc, je rappelle que vous êtes chercheuse au sein de l'équipe psychiatrie expérimentale et translationnelle et vous y développez un projet de recherche sur les origines et usages de l'expérimentation animale dans la biopsychiatrie. Et donc, depuis 2023, vous êtes aussi membre de l'Institut universitaire de France. Je le replace ici parce que voilà, j'aimerais bien que dans un moment de cette émission, on se penche aussi sur cette question. Mais pour l'heure, est-ce que vous voudriez nous expliquer ce que c'est la psychiatrie biologique ?
Alors, la psychiatrie biologique, c'est un courant de la psychiatrie qui, on peut le faire remonter peut-être au 19e siècle, en tout cas c'est là qu'on date la psychiatrie moderne, où la psychiatrie devient une discipline médicale distincte, avec des figures comme Philippe Pinel en France, qui va prôner un traitement plus humain des malades mentaux. On a le développement aussi d'une approche plus organiste, avec des psychiatres de l'époque qui vont chercher à expliquer les troubles mentaux par des causes physiques, des lésions cérébrales, des anomalies anatomiques. Et puis, au début du XXe siècle, on va avoir véritablement ce qu'on va appeler l'essor de la psychiatrie biologique, avec des découvertes importantes en neurologie. On peut penser aux travaux sur le cerveau qui ont été menés par Santiago Ramón Cajal sur les neurones, qui vont renforcer aussi l'idée que les troubles mentaux ont une base biologique. Et à partir des années 1930, on va voir apparaître, se développer un certain nombre de traitements somatiques avec des méthodes comme l'électrochoc en 1930, la lobotomie dans les années 1940, qui se développent pour traiter des maladies mentales. Alors évidemment, parallèlement à ça, il y a aussi la psychanalyse qui domine le paysage psychiatrique, qui met l'accent sur les causes psychologiques plutôt que biologiques. En tout cas, aussi, même si Freud était un fervent biologiste, hein, il s'intéressait aussi à la structure, mais c'est vrai qu'on retient de la théorie freudienne cette dimension-là. Et enfin, dans les années 1950, on va assister à une révolution, ce qu'on va appeler la révolution psychopharmacologique. C'est la période qui m'intéresse plus particulièrement dans ces travaux, avec la découverte des premiers psychotropes, c'est-à-dire les premiers médicaments psychiatriques. Parmi eux, il y a la chlorpromazine, qui est un antipsychotique. Il y a aussi le lithium, qui est un stabilisateur de l'humeur. Et évidemment, ces découvertes vont complètement révolutionner le traitement des troubles mentaux et vont renforcer cette approche biologique de la psychiatrie. Et puis, les recherches sur les modèles animaux, par le biais de l'expérimentation, vont devenir centraux pour comprendre les mécanismes biologiques des troubles mentaux, pour aussi tester des nouveaux traitements. Et je pense qu'on peut dire que c'est vraiment la naissance de la psychiatrie biologique, même si on dit parfois que l'âge d'or, finalement, de la psychiatrie biologique est venu plus tard, dans les années 60-80, avec à la fois le développement d'un modèle plus biochimique, hein, avec l'hypothèse de déséquilibre de la dopamine dans le cerveau pour expliquer la schizophrénie, par exemple, avec le développement des antidépresseurs, tricycliques et inhibiteurs de la monoamine oxydase, ce qu'on a appelé IMAO, qui vont devenir des traitements courants. Et c'est aussi, à cette époque-là, il faut le noter, hein, pour être complet dans cette réponse, qu'on va voir apparaître un courant qui s'appelle le courant d'antipsychiatrie, qui vont dénoncer aussi une médicalisation trop grande des troubles mentaux. Et plus récemment, depuis les années 90 jusqu'à aujourd'hui, on a vu l'essor des neurosciences, de l'imagerie cérébrale avec les IRM qui permettent d'étudier le cerveau en direct et qui contribuent à renforcer aussi la dimension biologique des troubles mentaux. Et puis à côté de ça, il y a aussi toutes les recherches en génétique, en épigénétique qui sont venues renforcer cette dimension biologique de la psychiatrie. Alors évidemment, voilà, quand je vous présente ça, je ne vous parle pas encore pour l'instant de tous les débats qui ont accompagné ces réflexions et ces développements.
Alors est-ce qu'on pourrait titrer un article ou un livre, alors attention, psychiatrie biologique, virgule, défaite de l'hystérie, point d'interrogation ?
Donc là, vous faites référence à Charcot.
Par exemple.
Voilà. Disons que ce serait un petit peu radical au sens où je ne sais pas si on peut considérer que ça se joue sur le même plan et surtout par rapport à l'historique que j'ai donné, enfin tout le contexte historique, finalement, Charcot peut être inscrit dans le courant de la psychiatrie biologique. Donc voilà, il y a quelque chose qui n'est pas complètement antagoniste, en tout cas dans ces deux visions. Et la manière de le mettre dos à dos ici, évidemment, renvoie à la dimension beaucoup plus psychologique, hein, mais c'est tout l'enjeu aussi de la dualité du rapport entre le corps et l'esprit qui est rendu à travers cette polarisation d'un côté entre une psychiatrie qui serait plus tournée vers la psychanalyse et puis une psychiatrie qui serait plus biologique. Dans la recontextualisation, j'essaie aussi de montrer que finalement, certains aspects, notamment de la théorie freudienne, ont été intégrés dans la psychiatrie biologique. Donc il n'y a pas une telle impossibilité de rencontre, en tout cas, entre ces différents courants, même si, dans les faits, oui, elle reste très scindée.
D'ailleurs, ça fait une amusante mise en abîme avec la séparation, des sciences molles et dures dont on parlait tout à l'heure, la séparation supposée du corps et de l'esprit. Alors, puisque vous mentionniez Freud, vous disiez que certains éléments ont quand même été intégrés à cette psychiatrie biologique, lesquelles ?
Déjà, on peut réfléchir sur la mise en œuvre de certaines, on en parlera après, mais sur le rapport à l'expérimentation animale, pour construire des hypothèses de recherche ou réfléchir sur des modèles. on s'appuie sur des modèles de psychologie, et ces modèles de psychologie, ils sont influencés évidemment aussi par la théorie freudienne. Et donc, certaines des réflexions freudiennes alimentent ou ont alimenté des modèles qui ont été développés en expérimentation animale. Alors évidemment, c'est pas l'influence directe ni l'influence revendiquée, mais en tout cas, dans certaines interprétations qui peuvent être faites de ces modèles ou la manière dont on les envisage, on retrouve parfois, de manière surprenante, des idées qui avaient déjà été formulées, mentionnées par Freud.
Ça veut dire que cette discipline, elle a, comment dire, j'allais dire fait feu de tout bois, faut pas exagérer, mais en tout cas, elle s'est alimentée de tout ce qu'il y avait avant, autour.
Oui, je crois que c'est ce qui, la caractérise. On a tendance à y voir une radicalité au sens où, de la même manière, du côté de la psychanalyse, il peut y avoir une forme de radicalité. Il y a aussi des réflexions, enfin je pense par exemple au modèle en psychiatrie biopsychosociale, qui tendent à essayer d'intégrer différentes dimensions et à réfléchir simplement en considérant que voilà, l'esprit serait pas une entité qui flotte comme ça, immatérielle, au-dessus de la terre, et qui serait bien incarnée dans la matière, hein, une forme de matérialisme, qui me semble importante de prendre en considération, sans pour autant être réductionniste, c'est-à-dire sans pour autant considérer que les pathologies, les troubles mentaux se réduisent à des informations génétiques, se réduisent à des neurones ou des connexions de neurones ou de cellules. Et je pense que voilà, la nuance à apporter est de ce côté-là. Et je crois qu'on peut dire que certains psychiatres ou même certains neuroscientifiques l'apporteraient volontiers.
Vous évoquiez aussi des débats, disons, voilà, qui ont eu cours dans ce domaine, c'est-à-dire
dans le domaine de la psychiatrie biologique.
Voilà. Vous disiez que c'était des sources de débats multiples.
Il y a des sources de débats parce qu'il y a différents aspects. Il y a des critiques qui ont été faites quant à l'usage des psychotropes, d'une part. Il y a aussi des critiques qui ont été faites quant à l'usage de l'expérimentation animale. Moi, c'est ce qui m'intéresse plus particulièrement dans mon projet de recherche. Et puis il y a aussi des critiques sociétales, hein, sur l'idée qu'il y aurait peut-être une médicalisation trop importante des troubles mentaux. C'est tout le courant de l'antipsychiatrie. Il y a aussi des critiques sur le rapport à l'industrie pharmaceutique, comme quoi finalement ils seraient pourvoyeurs de médicaments, hein, ils auraient intérêt à vendre certains médicaments, peut-être intérêt aussi à ne pas en commercialiser d'autres, en fonction de leur cible et donc des consommateurs potentiels. C'est un des enjeux d'ailleurs de l'expérimentation animale, parce que on sait qu'il y a des résultats qui ont pu s'avérer concluants suite à des expériences menées sur des animaux et qui semblaient être concluants pour certaines pathologies chez l'homme, et qui pourtant n'ont pas été développées par les industries pharmaceutiques, parce que les études de marché les conduisaient à considérer qu'en fait ils n'auraient pas suffisamment de gens à qui vendre cette substance. Ouais.
Et alors justement, qu'est-ce que les animaux viennent faire là-dedans ?
Alors, les animaux, ils sont partout.
Certes.
À commencer par nous. Mais c'est vrai que moi, c'était mon interrogation de départ. En arrivant dans ce labo, au départ, je travaillais plutôt sur la notion de plasticité dans le vivant. C'est un tout autre sujet. Et puis, en arrivant dans ce laboratoire, ce qui m'a marqué, c'est pas tellement les expériences sur les animaux, au sens où je les aurais vues, ça m'aurait choqué. C'est pas tellement la question éthique qui m'a qui m'a animée en premier lieu, c'est plutôt et principalement la question épistémologique, même si je pense que les deux sont liés. Mais qu'est-ce que ça veut dire plutôt la question épistémologique ? C'est-à-dire que je me suis demandé comment ça se fait qu'on s'est dit à un moment donné que pour comprendre et pour traiter, soigner les maladies mentales, en faisant des expériences sur des animaux parfois très éloignés, a priori, psychiquement, de l'homme, on allait trouver des explications ou des traitements pour l'homme. Donc, c'est un peu cette question, je dirais, presque naïve, hein, que vous me posez d'ailleurs aujourd'hui, qui m'a conduite à revenir sur les origines aussi de cette histoire, essayer de voir à quel moment les expériences sont passées des expériences faites sur l'homme à des expériences faites sur des animaux. Alors, évidemment, immédiatement, une fois qu'on a dit ça, on comprend les enjeux éthiques qui font qu'aujourd'hui, on ne fait plus ces expériences directement sur l'homme. Et c'est ce qui fait aussi qu'on continue d'être dans cette tension, à la fois de ne pas vouloir expérimenter directement sur l'homme. On sait, on a rappelé récemment quand même les travers terribles de l'histoire qui ont conduit à des expérimentations en masse sur les humains et sur certains humains en particulier. C'est-à-dire que c'est toujours pareil, hein, quand on commence à expérimenter sur l'homme, on n'expérimente pas sur n'importe quels humains. Il y a un très bel ouvrage de Grégoire Chamaillou sur le sujet qui s'appelle « Les corps vils », que je vous invite à aller consulter, qui montre sur quel type d'humain on a eu tendance toujours à expérimenter au cours de l'histoire. Donc il y a cette problématique, et puis l'autre problématique qui est celle de savoir, oui, mais quel type de connaissances on acquiert quand on expérimente sur l'animal pour avoir des connaissances sur le cerveau humain. Mais d'une certaine façon, en fait, cette question, elle est la même dans tous les domaines de la médecine. C'est une question qui est à la fois spécifique, et c'est ce qui, moi, m'intéressait, hein, les enjeux spécifiques de la psychiatrie biologique ou de la psychopharmacologie, et elle est à la fois très générale, puisque on peut se dire, bah oui, dans quelle mesure les recherches qu'on fait sur les souris nous permettent de comprendre le cancer chez l'homme. Alors paradoxalement, elle est moins problématique, en tout cas le passage de l'animal non humain à l'animal humain pour les maladies dites somatiques est moins problématique, en tout cas nous pose moins questions que dans les maladies, pour le cas des maladies mentales. Et c'est pour plusieurs raisons. C'est déjà des raisons propres aux maladies mentales elles-mêmes, c'est-à-dire que c'est un des enjeux de la recherche en psychiatrie, c'est celui de savoir comment caractériser les maladies mentales, comment est-ce qu'on peut les définir, les délimiter. Et donc, évidemment, si on veut faire des recherches sur des maladies singulières, des troubles mentaux, il faut pouvoir dire on recherche quoi. Est-ce qu'on essaie de soigner des symptômes de ces maladies ? Est-ce qu'on essaie de comprendre les mécanismes qui seraient à la source de ces maladies ? Donc, il y a plusieurs enjeux qui sont intriqués et qui vont mettre en jeu l'expérimentation animale à plusieurs niveaux et pour plusieurs raisons. Et donc, moi, c'est ça qui m'a intéressée. C'est essayer de comprendre tout ce maillage de raisons et comment est-ce que les chercheurs s'en dépêtrent, en quelque sorte, et comment est-ce que, parfois, pour de très bonnes raisons, ils arrivent à justifier le fait qu'on élabore des connaissances en s'appuyant sur les modèles animaux, et pourquoi, parfois, c'est plus difficile parce que, finalement, les connaissances acquises semblent plus difficilement transférables, acquises chez l'animal non humain, semblent plus difficilement transférables à l'animal humain. Donc voilà, il y a ces différents enjeux.
Et alors par exemple, si on reste dans le champ de la psychiatrie biologique, c'est-à-dire si on évalue qu'une souris, je dis n'importe quoi, hein, pardon, une souris dépressive se comporte de telle façon, c'est-à-dire dans quelle mesure je peux transférer ce comportement que j'analyse chez l'animal non humain à l'animal humain ?
Alors déjà, là, vous voyez, vous parlez de souris dépressives. C'est des modèles qui sont développés beaucoup plus récemment. Il va falloir attendre après les années 90, pour ne pas dire les années 2000. Donc, c'est des modèles finalement très récents. Ces modèles animaux des pathologies mentales, parce qu'il a fallu avoir des souris qui étaient des lignées spécifiques, donc qui avaient été élevées pour leurs caractéristiques phénotypiques, c'est-à-dire leurs traits particuliers, et qui ensuite avaient été sélectionnés génétiquement parce qu'ils présentaient certaines caractéristiques qui mimaient des comportements qu'on considérait comme des comportements autistiques, hein, qu'on avait observés chez l'humain, et donc on essayait de retrouver ces comportements-là chez l'animal. Et ça peut être des choses encore plus fines, c'est-à-dire par exemple, si je parle de la dépression plus spécifiquement, ça peut être ce qu'on appelle l'anhédonie, hein, l'absence de plaisir. Donc ça, on va essayer non pas de caractériser une souris comme étant une souris dépressive, hein, même si c'est des termes qui peuvent être utilisés par les scientifiques et sur lesquels je les interroge parfois en disant « mais qu'est-ce que c'est qu'une souris dépressive ?» Ils vont dire « ah non, mais en fait, bon, c'est un terme un peu courant qu'on utilise. » Alors, c'est toujours délicat, hein, parce que le langage, ça véhicule aussi des idées. Ils vont dire « non, mais en fait, c'est cette souris, elle a été sélectionnée parce que elle a plus que les autres souris, elle présente un trait d'anhédonie, c'est-à-dire d'être naturellement en fait plus propice dans certaines circonstances à présenter des signes qui se rapprochent de la dépression, par exemple. Et donc, du coup, les animaux en question, c'est pas des animaux qu'on a pris dans la nature, quoi. C'est des animaux qui, depuis plusieurs générations, ont été sélectionnés pour ces traits spécifiques qu'ils présentent et qui permettent de tester des hypothèses de recherche encore plus spécifiques ou singuliers. Donc, je veux dire, si on essaie de reproduire ça chez soi avec sa souris, on n'y arrivera pas, quoi.
Alors là, c'est comment dire, comment les qualifier d'ailleurs ces animaux-là, de dire tiens là, est-ce qu'ils sont anthropomorphisés, je ne sais pas comment dire, de dire ils sont, c'est pas les animaux qu'on trouverait disons à l'état de nature, si ça existe, c'est évidemment pas des animaux humains, c'est entre deux.
Ils sont hautement technicisés, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de techniques, surtout quand ils sont modifiés génétiquement. C'est là où c'est très délicat, c'est que ça reste des animaux vivants qui sont été reproduits plus rarement par clonage, mais en général ils ont des reproductions naturelles, on va dire, la seule caractéristique, c'est que comme c'est des lignées, ils ont très peu de différences les uns avec les autres. Ce qui d'ailleurs représente aussi un problème, c'est à la fois un avantage dans la standardisation, mais ça peut représenter un problème dans tout ce qui est la réflexion sur la diversité, par exemple, des profils individuels. On pourrait se dire, mais finalement, pour réfléchir sur le soin, sur une médecine personnalisée, on pourrait avoir tendance à plutôt rechercher la compréhension sur les spécificités individuelles. Là, on va plutôt se focaliser sur la reproductibilité pour pouvoir dire que la recherche qu'on a faite, ce n'était pas un coup du hasard, quoi. C'était quelque chose qui était visible à grande échelle, qu'on a pu reproduire à plusieurs reprises et donc qui est assuré comme connaissance qu'on a à l'issue de cette recherche. Donc, c'est des individus qui ont perdu aussi leur statut d'individualité à travers ce phénomène, ces animaux.
Après l'inquiétude qu'on pourrait avoir, peut-être, en entendant ce que vous nous expliquez, c'est de dire forcément que l'expérience est reproductible, puisque je la reproduis toujours sur les mêmes sujets.
Oui, mais en fait, après, les expériences qui sont menées, c'est des expériences de comportement ou des expériences, on donne des substances pharmaceutiques pour observer, notamment dans le cerveau, les modifications que ça va induire. Donc, on a besoin de se dire que ce n'était pas une erreur de l'expérimentation ou de la manipulation qui a induit l'observation qu'on a faite, qu'on l'a répétée plusieurs fois et que donc, par cette répétition, on confirme que l'observation qu'on a faite est bien valide. C'est comme ça qu'on s'en assure.
Donc c'est valide, c'est vrai pour la lignée alpha.
Exactement, oui.
Voilà.
Ouais. Bah, c'est une des limites, évidemment, de tous ces enjeux. L'avantage majeur, c'est de pouvoir expérimenter sur le vivant, c'est-à-dire sur des organismes qui sont en action. Et ça, c'était une des grandes leçons, finalement, qui a influencé toute la médecine contemporaine de Claude Bernard, hein, qui était de dire, voilà, pour comprendre le vivant, il ne suffit pas de faire de la dissection sur le mort. On a besoin, pour comprendre les fonctions, de comprendre comment est-ce que il fonctionne en étant vivant. Et donc, pour ça, évidemment, il est difficile de recourir à autre chose que des organismes vivants.
Mais évidemment, rappelons-le tout de même que tout cela est soigneusement encadré par la loi.
Oui. De manière relativement récente, il y a eu le développement de comités d'éthique en expérimentation animale. Alors, on connaît les comités d'éthique chez l'homme, mais maintenant, il y a des comités d'éthique qui encadrent toutes les expériences qui sont réalisées sur les animaux. Et c'est quelque chose qui est piloté par le ministère. Ce qu'on peut regretter, c'est qu'il est piloté, mais en fait, il n'y a pas forcément une uniformité à travers la France de ces comités d'éthique, de leur composition, de leur méthode de réflexion. Donc, chaque comité d'éthique essaie de faire les choses le mieux qu'il peut, en fonction des connaissances qu'il a aussi. C'est vrai que souvent, les gens qui sont impliqués dans les comités d'éthique sont des gens qui font eux-mêmes de l'expérimentation. Donc, on peut aussi se questionner là-dessus. En même temps, on se dit, si c'était pas eux, comment les autres connaîtraient ce qu'il en est, parce que ça implique des techniques quand même très sophistiquées et donc une information nécessaire. Ce qu'on peut déplorer, finalement, c'est comme il y a tout un tabou autour de l'expérimentation animale, il y a une absence de connaissance vraiment de ce qui est fait dans les laboratoires. Je pense que ça porte préjudice aux deux parties, c'est-à-dire à la fois à ceux qui sont pour la défense des animaux, hein, pour qui luttent contre la souffrance animale, et puis à la fois pour les scientifiques. Donc moi j'ai tendance à considérer que il faut essayer d'éclairer tous les citoyens sur cette question, de manière à ce que si des décisions dans un sens ou dans un autre doivent être prises, et certaines ont déjà été prises à l'échelle européenne, il faut aussi que ça soit en connaissance de cause sur les conséquences, sur ce qu'on peut faire actuellement, sur l'élaboration des connaissances, sur la mise en place de traitements. Donc il y a tous ces enjeux qui rentrent en ligne de compte, mais c'est important aussi que que l'on voit ou que l'on sache ce qui se fait dans les laboratoires, parce que la raison pour laquelle ces comités d'éthique ont été mis en place, c'est parce qu'il y a eu aussi beaucoup d'abus. C'est parce qu'il y a eu aussi beaucoup de maltraitance animale, aussi due à parfois de la méconnaissance sur la souffrance animale de la part de certains scientifiques. Donc l'avancée des connaissances autour de la sensibilité animale a permis de faire avancer la réflexion éthique de ce point de vue-là. Donc oui, c'est des enjeux qui... En tout cas, pour moi, mérite d'être posé et devrait faire l'objet de réflexions plus larges au sein de la société, mais en ayant le maximum d'informations. Voilà.
Pensez-vous que certains chercheurs ou médecins pourraient avoir peur, justement, de parler de leur travail qui nécessite, disons, des sujets animaux, non humains ? Justement par peur d'être agressé, critiqué, voilà, certains même peut-être se défendent de vouloir sciemment nuire aux animaux.
Oui, je pense que la plupart des chercheurs qui font ça ne le font pas forcément, et même souvent, ils ne le font pas avec joie. Il y a une forme il y a un caractère ingrat dans certaines de ces activités, mais ils le font aussi parce qu'ils considèrent que c'est important pour la connaissance, c'est important pour l'élaboration de traitements. C'est pour ça que je pense que c'est important de trouver des moyens à la fois de les protéger, parce qu'il n'y a pas de raison qu'ils se retrouvent agressés. À partir du moment où on défend les animaux, on ne devrait pas avoir envie d'agresser les autres individus non plus. Donc je pense que oui, il faut essayer de réfléchir au-delà finalement de ces enjeux immédiats. Il faut essayer de réfléchir à comment s'élaborent les connaissances actuellement. On peut se demander d'ailleurs si ce qu'on a connu autour de l'élaboration des connaissances qui mettait la primauté autour de l'expérimentation animale, est-ce que c'est voué à être le seul moyen d'élaborer les connaissances ? Est-ce que peut-être ça sera amené à évoluer, pas que pour des raisons éthiques, peut-être que c'est la pression de la société et des raisons éthiques qui vont faire qu'on va renoncer à l'expérimentation animale, mais peut-être qu'il y a des enjeux épistémologiques, c'est-à-dire on va se dire, jusqu'à présent, pour comprendre les connaissances, on s'était appuyé finalement sur un modèle bernardien de vivisection, mais peut-être qu'il y a d'autres moyens d'élaborer les connaissances dans le domaine des sciences du vivant, et que dans un avenir plus ou moins lointain, on sera capable de s'orienter vers ce type de réflexion.
Comment va se poursuivre ce projet de votre côté ?
Alors de mon côté, il y a plusieurs enjeux. Moi, je m'intéresse à la fois à la dimension historique autour de la psychopharmacologie, et puis aussi sur la manière dont l'expérimentation animale s'est mise en place en France et en Europe, parce qu'on connaît beaucoup plus l'histoire américaine, nord-américaine, voire anglo-saxonne un petit peu, mais en tout cas on connaît moins l'histoire française, allemande, de cette origine des modèles animaux. Et elle est particulièrement intéressante, parce que je parlais tout à l'heure de la chlorpromazine, donc ça c'est tout un pan de la recherche de ce projet. On considère que le découvreur de la chlorpromazine est un chirurgien de l'armée navale française, Henri Laborie. Et Henri Laborie était chirurgien, donc il faisait plutôt des recherches sur l'homme, mais il a fait quelques expériences sur l'animal dans son laboratoire qu'il avait développé quand il a quitté son poste à l'armée et qu'il est devenu chercheur indépendant. Il avait développé des modèles animaux. Et donc, ça m'intéresse de voir voilà, comment est-ce que lui, il envisageait le rapport à l'expérimentation animale peut-être de manière différente dans l'élaboration des connaissances de ce qui a été fait aux États-Unis dans une systématisation beaucoup plus importante avec l'industrie pharmaceutique notamment et le développement de psychotropes à grande échelle. Donc voilà, c'est à peu près ces pistes-là qu'on envisage pour l'instant dans nos recherches.
Alors peut-être que ça donnera lieu à un futur livre chez un éditeur universitaire américain où on peut trouver d'ailleurs une autre de vos publications, donc qui est sur la plasticité, justement, vous l'évoquiez en début d'émission.
Oui, j'ai publié, en fait, c'est le livre qui est le résultat des recherches que j'avais menées pendant ma thèse autour du concept de plasticité dans le vivant, donc qui parle beaucoup plus de théorie de l'évolution, de biologie du développement et de génétique et de la manière dont dans ces trois domaines le concept de plasticité s'est développé, s'est transformé, a évolué pour devenir aujourd'hui un concept central de la biologie et qui revient d'ailleurs et qui apparaît dans les neurosciences. Donc c'est aussi un sujet de recherche et d'intérêt avec mes collègues.
Et alors, pour boucler la boucle et terminer cette émission, peut-être voudriez-vous nous dire un mot sur vos activités à l'Institut universitaire de France ?
Alors, à l'Institut universitaire de France, c'est aussi autour d'un projet similaire à celui dont je vous ai parlé ce matin, qui m'a permis d'obtenir finalement cette chaire, qui est une réflexion autour de l'expérimentation animale toujours en psychopharmacologie, mais cette fois-ci à l'échelle beaucoup plus internationale, c'est-à-dire voir vraiment comment les différents enjeux se sont articulés les uns aux autres à travers le monde, des enjeux à la fois d'éthologie, donc de recherche sur le comportement animal, des enjeux de psychologie, psychologie comparée entre ce qui s'est fait chez l'animal et ce qui s'est fait chez l'être humain. Et donc, voilà, c'est une continuité du projet de recherche actuel, une poursuite.
Bien, merci à vous, Antonine Nicoglou, d'être venue dans cette émission La Méridienne sur Radio Campus Tours. On pourra l'écouter en podcast sur notre site à volonté. Et je remercie également Jean-Michel Escoffre et Pierre Da Silva qui me permettent régulièrement d'avoir le plaisir de recevoir des chercheurs et des chercheuses affiliés à l'INSERM dans cette émission. Et pour terminer, avec certain peu de retard, on va écouter votre second choix musical. Alors, quel est-il ?
C'est Doudou de Philippe Catherine.
Voilà, bonne journée à merci. Vous. Et bonne journée à toutes et à tous.
Elle a une odeur, on dirait un doudou, très doudou. Il y a comme une odeur de je sais pas quoi qui me rappelle le jour où la première fois j'ai trouvé la vie belle. C'était au mois d'août, ça sentait le foin mêlé au jasmin, très doux, doux. Elle a une odeur, on dirait un doudou, bien plus doux que tous les doudous que j'ai jamais connus au monde. Et pourtant, Dieu sait s'il y a des doudous dans ce monde. Des doudous très doux, des doudous chagrins, des doudous câlins très doux, doux.
Il, elle, il, elle.
Elle a une odeur, je suis comme un toutou, un toutou. Très doudou, un bon toutou qui remue la queue quand on l'appelle, un bon toutou qui vous fait trouver la vie belle, un toutou très doux, un toutou chagrin, un toutou câlin très doux, doux.
Doudou, 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 doudou.
Do 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 do